Chers auditeurs, dans quelques jours, vous pourrez découvrir une série inédite de La Loupe consacrée aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. À 3 mois de la cérémonie d'ouverture, on s'est demandé comment réussir ces JO. Les transports sont-ils prêts à affronter les milliers de touristes? Le dispositif de sécurité est-il suffisant? L'enthousiasme sera-t-il finalement au rendez-vous? Pour répondre, on plonge durant 5 épisodes dans les archives des éditions précédentes, accompagnés des journalistes de l'Express. C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Elon Musk raccroche au nez les patrons de Michelin.
Bon, il ne restera plus qu'à renommer Mars la planète Musk et on aura bouclé la boucle.
Musk, c'est pas un inventeur, c'est pas un Einstein des temps modernes. Musk, c'est un ingénieur de génie. En fait, on pourrait même dire que c'est un déconstructeur.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 26 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Une Tesla décapotable rouge cerise flotte littéralement dans l'espace. Dans le pare-brise, on voit se refléter la Terre. L'autoradio est calé sur une chanson de David Bowie. Sur le siège conducteur, il y a un astronaute en combinaison, l'air plutôt à l'aise, une seule main sur le volant. Ça y est, vous vous souvenez, on est en 2018 et ce cabriolet vole direction Mars. L'homme à bord est un mannequin pour l'instant. Elon Musk l'a appelé Starman. Vous vous dites que ça fait beaucoup, que ça ressemble à un gros coup de com', à un geste fantasque de milliardaire. Eh bien, pas du tout. Cette image, c'est le symbole de la cohérence d'Elon Musk. S'il développe des voitures électriques, c'est bien pour les faire rouler un jour sur la planète rouge. En fait, tous ces projets ébouriffants se rejoignent autour d'un but ultime, celui d'installer l'humanité sur Mars. Cette semaine, dans La Loupe, on vous propose 5 épisodes sur ces idées folles qui révolutionneront le monde de demain. Et avant ses disciples, on commence par le prophète Elon Musk. J'accueille en studio Béatrice Mathieu, la chef du service économie de l'Express. Salut Béatrice.
Salut Xavier.
Tu es venue en Tesla ?
Non, en métro, c'est encore plus.
Ah, même
plus
pas
économie.
En fusée. D'accord. On va donc parler d'Elon Musk dans cet épisode. Et on ne peut pas parler d'Elon Musk sans parler de Mars. Béatrice, d'où ça lui vient cette obsession ?
Musk a une obsession, une vision de lui et de son rôle sur Terre qui est presque messianique. Il est persuadé que l'humanité, en fait, a un avenir multiplanétaire parce qu'il pense que la planète, la Terre, est en train de mourir et parce qu'il pense que statistiquement, un jour, un événement, alors c'est le signe noir, hein, est-ce que c'est un tremblement de terre gigantesque, une pandémie terrible, eh bien décimera l'humanité. Donc pour lui, l'humanité doit voyager de planète en planète.
The alternative is to become a space-faring civilization and a multi-planet species, which I hope you would agree that is the right way to go. Yes?
Alors, c'est cette vision un peu messianique de son destin, puis de son business derrière, on va voir ça, ça résonne vraiment dans la Silicon Valley, qui se voit un peu comme assiégée par ces gigantesques feux, assiégée par...
Oui, en Californie, chaque été.
Assiégée aussi et menacée par le Big One, hein, ce grand tremblement de terre qui doit un jour tout dévaster. Et donc, ça résonne beaucoup dans tout l'écosystème de la Silicon Valley.
Au-dessus de San Francisco, la fumée des incendies forme un écran qui bloque les rayons du soleil et plonge la ville dans l'obscurité. Des feux de forêt qui ravagent toute la côte ouest, depuis le Canada jusqu'au Mexique.
Alors, il faut voir que quand on arrive au siège de SpaceX et qu'on n'est pas très loin du bureau du Big Boss, il y a deux très, très grandes affiches qui s'étalent sur les murs et deux affiches de la planète Mars. Alors, il y en a une, c'est la planète Mars telle qu'on la connaît, hein, qui est aride, hostile
rouge.
Et rouge. Et puis, de l'autre côté, c'est une planète Mars qui a été terraformée, où, voilà, qui a de la végétation, où il y a des océans, et c'est la planète Mars qu'il rêve et qu'il ambitionne de coloniser.
Et cette vision, cette passion pour la planète rouge, ça lui vient de sa jeunesse, de ses lectures de jeunesse?
Oui, ça lui vient de ses lectures de jeunesse. C'est un fan de science-fiction, hein, de SF. Alors évidemment, comme beaucoup de jeunes de cette époque-là, il adore Tolkien et Le Seigneur des Anneaux. Il est passionné par la trilogie Fondation d'Isaac Asimov. Et puis après, beaucoup plus tard, hein, au début des années 90, c'est une autre trilogie qui fait fureur parmi les fans de SF, dont je suis, qui est une trilogie de Kim Stanley Robinson, qui s'appelle La Trilogie Martienne. On a ces trois tomes. Hein, il y a Mars, la rouge, Mars la verte et Mars la bleue, et qui explique en fait comment une équipe de scientifiques, après sur plusieurs générations, eh bien, terraforme Mars.
Et pour faire ça, Béatrice, ce que tu nous dis, c'est que toutes ces activités à Elon Musk, elles tendent vers cette conquête de Mars.
C'est indispensable de comprendre que la conquête de Mars et ce rêve messianique, hein, transporter l'humanité sur d'autres planètes, eh bien, fait partie de son business et explique la cohérence de tout ce qu'il est en train de se construire. Parce que quand on regarde tous ces business, bon, on se dit, bon, alors il fait des voitures électriques, il fait des panneaux solaires, il fait des fusées, il fait des tunnels. On ne comprend pas bien, en fait. On se dit, bon, c'est un peu fait de briques et brocs, ça marche très bien, mais bon, c'est, on ne comprend pas tellement le lien. Et en fait, quand on réfléchit, tout ça, c'est comme un mécano, hein, c'est des briques qui s'imbriquent les unes dans les autres pour donner ce but ultime qui est aller sur Mars.
D'accord, alors moi, j'ai du mal à assembler le puzzle ou le mécano, comme tu dis. Alors, on va aller prendre un par un ces projets ou ces petites briques pour que tu nous expliques. Alors d'abord, il y a les fusées SpaceX. Ça, c'est facile, je crois savoir à quoi ça va servir.
Bah, les fusées SpaceX, c'est pour y aller, effectivement. Donc, il y a eu d'abord les Falcon et puis il y a surtout Starship. Alors là, c'est la très, très grosse fusée qui est en construction aujourd'hui à Boca Chica, qui est un tout petit village à côté de la frontière mexicaine. Et c'est celle-là qui va être utilisée par la NASA pour déjà, dans la prochaine mission lunaire, et la Lune étant le point de départ pour aller après sur Mars.
Donc c'est une grosse fusée qui peut transporter beaucoup de monde ?
Ah oui, c'est une énorme fusée qui peut transporter beaucoup plus que les fusées Falcon, donc qui pourrait aussi être utilisée sur Terre par l'armée américaine pour faire ce qu'ils appellent du point-to-point, c'est d'amener du matériel et des hommes en une demi-heure des États-Unis à un autre bout de la planète.
Donc les fusées, ça paraît évident, mais je sais pas, par exemple, les panneaux solaires.
Bah parce que quand on arrive sur Mars, hein, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie pour vivre. Alors on peut se dire, on peut utiliser le nucléaire, mais le nucléaire, après, il faut de l'uranium. Et donc évidemment, l'énergie qui est totalement illimitée, c'est l'énergie solaire. Et donc là, on retrouve la cohérence. C'est Solar City avec les batteries, et c'est les batteries stationnaires pour pouvoir stocker cette énergie produite.
Solar energy is cleaner energy that saves you money. Solar City help you make the switch to cleaner energy simple.
Donc si je te suis, ça, ça va aussi servir à recharger les voitures électriques, parce que sur Mars, évidemment, on roulera en Tesla.
On roulera en Tesla, on se déplacera surtout très difficilement, parce que la vie sur Mars, elle est très, très compliqué. Et donc, en réalité, on ne va pas se déplacer comme ça en marchant sur la planète, mais on va se déplacer dans des tunnels parce qu'il y a énormément de radiation et c'est extrêmement dangereux. D'où des tunnels qui seront creusés et dans lesquels il y aura un système de transport par véhicule autonome et sans doute des Tesla.
Donc, même les tunnels font partie du grand projet. Si je résume, demain, j'irai sur Mars à bord d'une fusée Musk. Une fois arrivé, je m'installe dans une base alimentée en énergie par des panneaux solaires Musk, je me déplacerai via un réseau de tunnels Musk à bord d'une voiture autonome Musk. Est-ce qu'il y a autre chose, Béatrice ?
Eh ben oui, on communiquera par une sorte d'Internet grâce aux constellations de satellites. Et là, c'est Starlink et les constellations qu'il est en train d'installer aujourd'hui au-dessus de la Terre. Mais là, on pourrait imaginer au-dessus de Mars.
Bon, il ne restera plus qu'à renommer Mars la planète Musk et on aura bouclé la boucle. Pour réaliser son destin, comme il le dit, Elon Musk se montre tout aussi cohérent dans ses méthodes qui, vous allez l'entendre, ne font pas forcément autant rêver que ses projets. Béatrice, pour mener tous ces projets à bien, est-ce qu'il y a aussi une méthode Musk ?
Oui, il y a une méthode Musk que l'on voit à la fois sur Tesla, que l'on peut voir aussi bien sur SpaceX. Musk, ce n'est pas un inventeur, ce n'est pas un Einstein des temps modernes. Musk, c'est un ingénieur de génie. En fait, on pourrait même dire que c'est un déconstructeur. Il prend un objet, on va dire, voilà, j'ai un stylo devant moi. Tout le monde se dirait, bon, comment je fais pour mettre une nouvelle encre à l'intérieur, etc. Lui, il dit non, un stylo, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour écrire. Donc, il part en fait de la fonction de l'objet, du besoin qui est rempli par l'objet, pour le réinventer. Et beaucoup disent finalement, une Tesla, c'est un iPhone avec des roues.
Donc d'accord, je vais bientôt pouvoir rouler sur mon téléphone. Ça, c'est la méthode Musk, mais concrètement, comment il l'applique ?
Alors, pour mettre en musique sa méthode, Musk s'appuie sur trois ressorts. Le premier, et ça c'est un fait très très important, c'est une intégration verticale poussée à l'extrême. Ça, c'est une véritable révolution, notamment dans l'industrie automobile. Vous savez, les constructeurs automobiles, ils ont des dizaines, voire des centaines de sous-traitants qui sont éparpillés sur toute la planète. On a d'ailleurs vu pendant la pandémie que ça posait des problèmes quand il y avait des sous-traitants chinois qui ne pouvaient plus produire à cause de la pandémie, eh bien on avait des usines en France qui étaient bloquées. Lui, Musk, il dit, ah non, moi, je ne veux pas de ça. Moi, je veux maîtriser toute ma chaîne de valeur, du moindre petit boulon jusqu'au fauteuil. Les fauteuils, c'est lui qui les fabrique, ces fauteuils de la Tesla. Donc ça, c'est un premier ressort qu'on revoit aussi sur SpaceX.
Le deuxième ressort,
c'est quoi ? Le deuxième, c'est la rapidité d'exécution. Ça, c'est incroyable. Et par exemple, là, sur SpaceX, il a réussi à faire son premier lanceur en 3 ans, là où l'industrie, les dinosaures de l'industrie, ils mettent 10 ans pour sortir un nouveau lanceur.
Donc, il maîtrise tout, il est plus rapide, et ensuite ?
C'est l'échec. L'échec, lui, il le recherche presque. Ça fait partie de sa méthode. C'est-à-dire qu'il considère que s'il n'y a pas assez d'échecs, c'est qu'on n'a pas poussé le système jusqu'au bout. Donc, il faut de l'échec, mais on apprend de l'échec. Et donc, l'échec fait partie de la méthode Musk.
Donc, en fait, Elon Musk ne veut rien faire comme tout le monde. Et j'imagine, Béatrice, que ça fait quelques étincelles avec les acteurs de l'économie plus traditionnelle.
Bien sûr, évidemment, et notamment avec les sous-traitants et puis les géants du secteur, des géants du secteur qui veulent travailler avec lui. Alors lui il dit, mais non, mais moi, j'ai même pas besoin de vous. D'autant plus que ces géants du secteur, que ce soit dans l'automobile et surtout dans le spatial, quand il est arrivé, ils l'ont pris vraiment de haut, ils se sont vraiment moqués de lui. Donc aujourd'hui, il tient un petit peu sa revanche. Et puis alors, quand il y a des sous-traitants qui sont un petit peu pas assez rapides, alors soit il les rachète et puis il vire le patron, soit il pompe aussi leur technologie. Et puis avec des sous-traitants plus installés, on pourrait prendre le cas de Michelin. Ça a été assez compliqué au début, les relations entre Tesla et Michelin.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Michelin ?
Avant même le lancement de son premier roadster, il appelle Michelin. Hello, Elon Musk speaking. Et donc Elon Musk leur dit, moi j'adore les pneus Michelin, je veux que vous construisiez une usine à Fremont à côté de mon usine Tesla. Donc là, les patrons Michelin sont un peu estomaqués et disent « Non, c'est pas tout à fait comme ça qu'on travaille, vous comprenez ? Non, il faut qu'on réfléchisse, c'est là. » Et donc là, crac, Elon Musk raccroche au nez des patrons de Michelin. Et plus de nouvelles. Un mois, il les rappelle. Un mois après, un furieux, en disant « Mais je ne comprends pas, pourquoi vous ne voulez pas construire votre usine chez nous ? Pourquoi vous ne voulez pas nous vendre des pneus ?» Et puis, il lui annonce une commande monstrueuse de pneus. Sauf que Michelin, il n'a pas en stock les pneus que Tesla demande. Et donc, il doit aussi servir les clients. Et donc, il lui dit « Mais vous savez, ce n'est pas comme ça qu'on travaille ici, en France, en Europe. » Et donc, de nouveau, là, Musk est furieux. Et puis, alors après, il raccroche de nouveau, sans dire au revoir, merci, rien du tout. Et puis après, Michelin apprend que Tesla a acheté sur Internet, en fait, des stocks de pneus sans vraiment regarder les spécificités. Il se trouve que ces pneus sont anciens, que Michelin ne les fabrique plus et qu'ils s'usent très, très vite sur ces bolides électriques. Et donc là, ils vont se rabibocher. Et donc aujourd'hui, Michelin est très, très content des contrats qu'il a avec Tesla parce qu'il équipe toutes les voitures de Tesla. Mais les débuts ont été un petit peu chaotiques.
Bon, donc avec Michelin, ça roule, hein, sans mauvais jeu de mots. Elon Musk est aussi connu pour casser les prix. On l'a vu avec ses fusées SpaceX, hein, réutilisables et beaucoup moins chères que les concurrents.
Bien sûr, ses fusées sont beaucoup moins chères que ses concurrents, mais il faut voir qu'il a quand même été très, très, très aidé par le gouvernement américain. SpaceX et Musk, c'est le fils de l'oncle Sam. Aujourd'hui, par exemple, quand le gouvernement américain paye SpaceX pour un lancement institutionnel, il le surpaye, ce qui permet à SpaceX de se refaire des prix sur, et de pouvoir casser le marché sur des lancements commerciaux, là où Arianespace ne peut pas du tout suivre les prix que SpaceX propose. Donc, il casse les prix, mais il l'a fait évidemment avec l'aide de l'administration américaine.
Et pourquoi l'administration américaine aide à ce point-là Elon Musk ?
Parce que ça lui permettait à l'époque de sortir de la dépendance des Russes et de retrouver une hégémonie et une indépendance qui lui paraissait absolument nécessaire.
Et il fait ça vraiment dans tous les domaines, Béatrice ?
Oui, il fait ça. Alors, il y a un domaine qu'on ne connaît pas beaucoup de son activité, c'est celle des tunnels.
C'est vrai que ce n'est pas l'activité la plus médiatique de Musk.
Pourtant, il s'y passe des choses très, très intéressantes. Donc, la boîte, elle s'appelle The Boring Company.
Ça veut dire l'entreprise ennuyeuse ?
Qui n'est pas du tout ennuyeuse, vu ce qu'elle est en train de faire, et peut-être aussi de révolutionner en fait, le transport et le transport public. Lui, il se dit, bon, il y a des embouteillages dans ces mégapoles américaines monstrueux, donc il faut révolutionner ça. Et donc, il creuse des tunnels, mais dans lesquels il compte mettre ses propres voitures et ses propres voitures autonomes demain. Donc, il a une autre vision aussi de la mobilité urbaine. Et ces tunnels font partie, là aussi, ça sera une brique de la mobilité demain dans les villes, les smart cities.
Et pourquoi ces tunnels seront différents d'un tunnel qu'on peut voir aujourd'hui, je sais pas, à New York, sous l'Hudson River, ou des tunnels routiers qui existent déjà ?
Parce qu'il y aura tout un système en fait, de véhicules autonomes qui seront là pilotés par Tesla, et de véhicules électriques, autonomes. Il y a même aussi des projets où il y a des containers qui descendent sur des sortes de tapis roulants électriques pour faire du transport par fret.
Either we try something new or we will be stuck in traffic hell for the rest of our lives. I still think, well, maybe this could be...
Soit on essaye quelque chose, soit on va passer notre vie dans l'enfer des embouteillages. Je me suis dit qu'on pouvait tenter un truc souterrain. Voilà ce que disait Elon Musk lors de la présentation de son premier tunnel de Los Angeles en 2018.
How fast is this?
This is still slow. We're
this
doing,
is slow?
Only doing 20 miles an hour.
Oh my God, oh my
we'll
God,
speed up
oh my God.
After we get around the corner.
This isn't just any tunnel.
We can, go, oh. we can get 100, no problem, but we'll take it easy for you.
It's Elon Musk tunnel.
Et dans cette activité des tunnels aussi, Béatrice, Elon Musk s'impose face aux leaders du marché.
Oui, il s'impose et il fait très peur en fait aux leaders du marché. Il y a eu un événement qui s'est passé en début d'année, là, en février, où il a remporté un appel d'offres à Miami sur un tunnel qui passe sous la Miami River, qui est long de 4 km. Et là, la mairie de Miami disait, bon, bah, ça c'est un chantier qui va durer 4 ans, qui grosso modo devrait coûter 900 millions de dollars. Et Musk, il a dit, attendez, moi, je vous le fais en 6 mois et pour 30 millions.
Ah oui.
Et donc, objectivement, les géants des travaux publics, et il y en a beaucoup en France, hein, que l'on a rencontrés, nous disent, nous, on ne sait pas faire, on ne sait même pas positionner sur ce marché parce que ça nous paraissait incroyable. Et alors, ils se disent, comment fait-il ? Et en même temps, quand ils voient ce qu'il a fait, comment ce qu'il a disrupté, en fait, dans l'industrie spatiale, ils sont aujourd'hui très inquiets.
But when critics say you can't do this, your answer to them is,
we've done it.
C'est vrai que quand on dit à Elon Musk « vous ne pouvez pas faire ça, c'est impossible », il répond « on l'a déjà fait ». Elon Musk bouscule donc tout le monde, et y compris, Béatrice, les gens qui travaillent avec lui, pour lui.
Ah ben oui, c'est-à-dire que quand on va travailler chez Musk, on va vivre le projet. Il faut vivre le projet de Musk, il faut vivre son ambition messianique, il faut accepter aussi de travailler 15 heures par jour, il faut accepter, il n'y a plus de vacances, plus de week-ends, plus de famille, etc. Il faut vivre au rythme de Musk. Et en même temps, c'est effectivement extrêmement difficile, mais Musk attire, et les sociétés de Musk attirent des talents et des ingénieurs qui viennent du monde entier et qui acceptent ce deal-là parce que c'est une formidable aussi accélérateur de carrière. Mais il faut suivre la méthode.
La méthode dont tu nous as parlé, avec l'échec, etc.
C'est ça. Et puis, accepter de se remettre en cause, accepter aussi de prendre des risques, parce que c'est un risque tout, Musk. Et donc, il y a beaucoup d'ingénieurs dans le spatial qui viennent de la NASA et qui vont travailler chez Musk, mais qui arrivent aussi avec les ceintures et bretelles de la NASA. On nous a raconté l'histoire en fait, de directeur de vol de SpaceX qui venait de la NASA et qui avait dit une fois, deux fois à Musk, ça, on ne peut pas le faire, c'est trop dangereux, ça. La troisième fois, Musk lui a dit, bon, vous ne voulez pas prendre le risque, vous partez. Et donc, on peut partir aussi du jour au lendemain avec Musk. Et on sait que travailler avec Musk, ben, une année, ça en vaut deux ou trois.
Et Elon Musk, il est sans pitié, même avec les gens qui travaillent pour lui depuis toujours.
Oui, il y a cette histoire qui est assez connue de son assistante personnelle, qui avait été son assistante pendant 12 ans. Et puis un jour, la jeune femme lui dit « Est-ce que je pourrais avoir une augmentation ?» Et donc, il lui dit « Bon, on va essayer de faire un test, prends 2 semaines de vacances. » Et puis, pendant ces 2 semaines de vacances, il a fait son job.
Son job à elle.
Son job à elle. Et puis, il a vu qu'il pouvait très bien s'en passer. Quand elle est revenue, il lui a dit « J'ai pas besoin de vous parce que vous n'êtes pas essentiel à l'entreprise. » Alors, il l'a bien remercié. Il lui a donné, je crois, plus de 50 mois de salaire. Donc, elle est partie avec un joli cadeau financier. Mais il s'en est séparé du jour au lendemain. Et toutes ces anecdotes, évidemment, font partie de la légende de Musk.
Et d'ailleurs, pour continuer la légende, est-ce que vous saviez que en 1952, un ingénieur allemand a écrit un livre dans lequel il imagine la vie d'une société humaine sur Mars. Et cette société humaine est dirigée par un chef dont le titre est Elon. Alors, est-ce une prophétie? En tout cas, Elon Musk, lui, s'en est amusé sur les réseaux sociaux. Merci Béatrice, la presque légendaire chef du service économie de l'Express.
Merci Xavier.
Le dossier complet sur ces rêves fous qui vont peut-être changer nos vies est à lire dans le numéro double du magazine qui sort ce jeudi en kiosque et sur le site de l'Express. Pour retrouver toute la semaine notre série spéciale et ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet futuriste à la loupe.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.